Chapitre 16. Aux questions que Madame Mourier lui posa le lendemain, Jean-Noël répondit évasivement. Il n'était plus dans cet état d'esprit qui le faisait se confier à une femme qu'il envisageait de quitter. Il tenait à ce qu'elle ignorât la décision, si humiliante pour lui, qu'avait prise Madame Ettlinger. Qu'eût dit Laure si elle avait su qu'il n'était plus rien pour cette famille Villemur, dont elle espérait devenir un jour l'amie? Mais il eut beau se taire, Madame Mourier remarqua cependant qu'il cachait quelque chose. Comme elle aimait, quand elle faisait une observation, prendre son interlocuteur au dépourvu, elle attendit pour se plaindre d'être traitée si bizarrement par l'homme à cause duquel, justement, elle avait négligé tous ses intérêts, une occasion favorable. Une visite de Madame Mercier lui servit de prétexte. Avec un retard dont elle feignait de ne pas s'apercevoir, celle-ci était venue raconter à son fils, comme pour se décharger d'un secret qu'elle savait pourtant connu de tous, que si Émile s'était rendu avenue de Malakoff, ça avait été dans l'espoir de se rembourser. « Ta mère n'est vraiment pas sympathique, » observa Laure après le départ de Madame Mercier. « Quand je pense que cette femme vient chez moi, sans même se demander si elle me dérange, que pour te parler elle t'attire dans un coin comme si j'étais de trop, je ne peux m'empêcher de penser que j'ai été bien trop bonne. Je voudrais que tu me dises si tu connais une femme qui aurait eu ma patience. » Ce fut à ce moment que l'idée vint à Jean-Noël de dire à Laure la vérité sur ses rapports avec sa belle-mère. Ainsi amoindri, ne lui serait-il pas plus facile de reprendre sa liberté, désireuse, comme elle l'était, de voir entretenue l'affection d'Annie? Cette rupture ne pouvait que décevoir Madame Mourier. Jean-Noël ne s'était pas trompé. D'abord, elle ne voulut pas le croire. Puis, il lui apparut que ce qui arrivait à Jean-Noël ressemblait à ce qui lui était arrivé à elle. Il se rendait compte à présent de ce qu'étaient les familles. Pendant quelques jours, elle feignit de réfléchir aux moyens dont Jean-Noël disposait pour reconquérir le terrain perdu. Mais quand, à sa passivité, elle crut comprendre qu'il s'était résigné, elle montra au jeune homme un attachement auquel il ne s'attendait pas. Ils marcheraient main dans la main. Ils réorganiseraient leur vie, supprimeraient les pensions. Justement, elle avait des ennuis à cause de son mari et elle songeait à fonder une maison de couture. Pourquoi ne ferait-il pas un pacte en attendant ce fameux jour où la fortune leur sourirait? Ils étaient mariés chacun de leur côté. Ce fait ne devait-il pas les unir davantage? Fort de l'expérience qu'ils avaient acquise, ils allaient essayer, indépendants aux yeux du monde, mais unis secrètement, de faire leur chemin. Sur ces entrefaites, Jean-Noël reçut une lettre de Marguerite dans laquelle elle lui écrivait qu'elle aimait mieux mendier que divorcer et que si un jour il apprenait qu'elle avait entraîné Annette dans la mort, il saurait qui en était responsable. Jean-Noël brûla cette lettre immédiatement. Elle n'en demeura pas moins gravée dans son esprit. Il avait pourtant espéré que de la décision d'Annie sortirait un bien. Il n'en était rien. Au lieu de se refroidir, ses rapports avec Madame Mourier s'étaient resserrés, de sorte que l'intérêt de la communauté étant devenu le sien, un nouveau souci s'était ajouté à ceux qu'il avait déjà. Il y avait 3 semaines qu'il n'avait pas revu Odile lorsqu'il décida un soir de se rendre au boulevard du Montparnasse. Cette visite lui était désagréable, non seulement parce qu'il était gêné de reparaître après être resté si longtemps sans se montrer, mais parce que s'il était une raison à son silence qu'il ne voulait pas donner, c'était celle qu'il eût excusée. Mais à sa situation, il ne voyait d'autre issue que le mariage. Tout le monde, sauf Mademoiselle Wurzel, se réjouit de le revoir, si bien que ce ne fut qu'après avoir été obligé de prendre part à une conversation générale qui dura plus d'une heure, qu'il put s'isoler avec la jeune fille. « Vous deviez vous demander ce que j'étais devenu, » dit Jean-Noël, comme si son absence n'avait rien d'anormal. « Eh bien, j'ai eu beaucoup de travail. Chaque jour, je voulais vous téléphoner, mais je me disais que le lendemain, j'irais vous voir. » Et plus de temps passait, plus cela me devenait difficile. C'est ce qui vous trompe, répondit-elle froidement. Je ne me le demandais pas du tout. Je me disais simplement que vous étiez bizarre. En réalité, Odile avait le désir très vif de se marier avec Jean-Noël. Il lui plaisait, un peu parce que jadis, au temps où sa famille avait eu l'honneur de fréquenter les Villemur, elle l'avait trouvé séduisant, et surtout parce qu'elle avait subi la même disgrâce que ses parents à elle. Elle avait aimé son indépendance, cette confiance qu'il semblait avoir en lui, cette désinvolture, ce désintéressement que n'avaient pas les jeunes gens qu'on lui présentait comme des parties possibles. Puis elle avait été fière de jouer un rôle dans sa vie, de lui donner des conseils. Mais parce qu'elle savait si bien ce qu'elle désirait, elle ne voulait pas paraître tenir à lui. Il y avait une heure qu'ils étaient en présence, lorsque, ne sachant plus que dire, Jean-Noël se leva. 10 heures avaient sonné. C'était à ce moment que M. Wurzel, avant de se coucher, venait embrasser sa fille et qui lui enjoignait de ne pas trop s'attarder. Jean-Noël s'apprêtait à partir lorsqu'à la perspective de se retrouver seul au milieu de ses soucis, il voulut avoir au moins le réconfort de l'amitié d'Odile. « Il faut que vous m'écoutiez, » fit-il, sans attendre que M. Wurzel, dont la voix se rapprochait, eût pris congé de sa fille. « Si je ne suis pas venu vous voir plus tôt, c'est que des choses très graves se sont passées entre Annie et moi. Nous sommes brouillés. » Il ne put continuer. « Il est déjà tard, monsieur Ettlinger. Il faut que vous rentriez chez vous. » M. Wurzel embrassa sa fille, la pria d'aller se coucher. « C'est justement ce que j'allais faire, » répondit-elle. Lorsque son père l'eut quittée, elle accompagna Jean-Noël dans l'antichambre en lui parlant de banalité, puis en lui tendant la main, sur un ton complice cette fois, elle lui dit « Revenez me voir demain !» Une grande explication eut lieu alors entre Odile et Jean-Noël. Il y eut tant de franchise de part et d'autre que Jean-Noël lui demanda même si elle l'aimait autant depuis qu'elle savait qu'il n'avait plus aucun lien avec sa belle-mère. Elle s'indigna. « Au contraire, lui dit-elle, ce n'est que dans ces conditions que je peux avoir pour vous un sentiment. » Il insista, voulut qu'elle examinât les détours de son âme. Pendant quelques minutes, cependant que Jean-Noël feignait de respecter sa concentration, elle chercha si vraiment le fait que Jean-Noël ne reverrait pas sa belle-mère le diminuait à ses yeux. « Non, dit-elle finalement, cela n'est pas. » Ainsi réconciliés, il ne restait plus qu'à songer au divorce. M. Wurzel était couché depuis longtemps qu'ils en parlaient encore. Finalement, sur la décision de se rendre tous les deux le dimanche suivant à Saint-Cloud, ils se séparèrent. Ce dimanche arriva enfin. Jean-Noël était inquiet sur l'accueil que réserverait Marguerite à Mademoiselle Wurzel. Le temps était mauvais et, comme la fois précédente, le vent soufflait avec violence. Jean-Noël n'était pas retourné à Saint-Cloud, mais il avait écrit la fameuse lettre qu'il avait imaginée, lettre à laquelle, 15 jours plus tard, sa femme avait répondu par une menace de suicide. « Il faudrait peut-être avoir l'air de venir à cause de cette lettre, » dit Jean-Noël. Mais Odile lui fit comprendre tout de suite qu'elle n'allait pas à Saint-Cloud pour jouer une comédie. Elle y allait avec son cœur, et c'était sans la plus petite arrière-pensée qu'elle s'efforcerait de faire entendre raison à Marguerite. Jean-Noël n'éprouvait aucune honte à la pensée qu'une jeune fille élégante et jolie comme Odile allait se trouver en présence d'une femme négligée, déjà envahie par l'embonpoint et dont il était, par surcroît, le mari. Il savait que Mademoiselle Wurzel avait la qualité de ne jamais porter de jugement sur les apparences et que, placée en face d'une vieille ivrognesse dont il lui eût dit qu'elle était sa femme, elle eût eu pour celle-ci les mêmes égards que pour n'importe qui d'autre. Car elle considérait, ce qui ne manquait pas de surprendre, que tous les êtres sont distincts et que rien n'est plus injuste que de juger quelqu'un d'après ses parents ou ses amis. Rue de la Mission Marchand, Jean-Noël montra à Odile le pavillon où habitait Marguerite. Une dizaine d'enfants, parmi lesquels se trouvait Annie, jouaient dans le jardinet, car Marguerite avait la manie d'organiser le dimanche des réunions pour tous les enfants du voisinage. Il hésita à sonner. « Où est votre fille ?» demanda Odile. Comme il ne répondait pas, elle ajouta « Il faut sonner, ne restons pas ainsi. » Jean-Noël obéit, puis il fit signe à Odile d'attendre qu'on vînt leur ouvrir. Ce fut Annie qui accourut. mais en apercevant une dame qu'elle ne connaissait pas, elle s'immobilisa un instant, puis repartit en criant « C'est papa! C'est papa !»« Comme elle est mal tenue !» remarqua Odile. Elle aimait les enfants et savait été avec un intérêt que Jean-Noël ne s'expliquait pas qu'elle avait examiné sa fille, un peu comme si elle en avait été la mère, et qu'elle l'eût revue après une longue absence, sans être reconnue de la fillette.
« Maman, maman, papa est là, avec une dame »
entendait-on crier. Presque aussitôt, Marguerite parut sur le perron que protégeait un auvent, la taille entourée d'un tablier, les cheveux en broussaille, une cravate nouée autour du cou et le buste dans un maillot tellement détendu qu'il laissait voir la naissance des seins. Comme la porte de la grille était rouillée, ce fut Jean-Noël qui l'ouvrit. Les enfants s'étaient tus. Il s'effaça, non sans éprouver de la gêne devant sa femme, afin de laisser passer Odile la première. Celle-ci s'était vêtue pour la circonstance d'un tailleur foncé, très simple, mais dont l'excellence de la coupe ne pouvait échapper à Marguerite. « Entrez !» dit Marguerite sur le ton d'une femme qui n'a rien à cacher. « Nous ne voulons surtout pas vous déranger, madame !» dit Odile avec gravité. « Je te présente, mademoiselle Wurzel, » dit Jean-Noël. « Vous ne me dérangez pas, mademoiselle. Entrez, je vous prie. » Odile demeura au bas du perron. « Entrez, » répéta Jean-Noël. Cette fois, elle obéit. Tous trois pénétrèrent dans la salle à manger, qui, comme d'habitude, était en désordre. Marguerite s'en excusa. « J'organise tous les dimanches, comme vous avez pu le voir, une petite réunion. » Cela amuse beaucoup les enfants. Ils apportent chacun leur déjeuner. Ils jouent dans le jardin. Puis nous allons tous en bande dans les bois. Aussi, le dimanche, je ne touche à rien avant qu'ils soient partis. » Intimidés par les visiteurs et cependant intrigués, quelques-uns de ces enfants se tenaient immobiles dans l'embrasure d'une porte. « Allez jouer, mes petits, et surtout, soyez sages !» Jean-Noël s'était ressaisi. À moins d'imprévu, cette visite semblait devoir se passer très bien. Marguerite l'avait reçue, et c'était assez inattendu, mieux même que s'il était venu seul. Dans la situation où elle se trouvait et qu'elle croyait exceptionnelle, ne fallait-il pas qu'elle fît preuve de souplesse? Si Jean-Noël était revenu 8 jours plus tard avec une autre femme, Marguerite l'eût accueilli exactement de la même manière. Elle avait une fille. Son devoir était de tout accepter, même les démarches les plus extravagantes. Elle avait assez de discernement pour ne pas compromettre l'avenir de son enfant. Ses droits, elle les connaissait, et rien ne les lui ferait abandonner. « Est-ce que tu veux prendre du café ?» demanda-t-elle à son mari, qui rougit de ce tutoiement. Il se tourna vers Odile pour que ce fût elle qui répondît. Elle refusa. Marguerite n'insista pas. Jean-Noël ne pouvait plus retarder le moment de parler sans risquer de paraître le redouter. « Je suis venu, dit-il en souriant, pour te parler d'affaires. La dernière fois, si tu te rappelles, je t'ai demandé ce que tu pensais d'une situation plus régulière entre nous. » « D'un divorce !» précisa Marguerite, de manière à montrer tout de suite qu'on pouvait appeler les choses par leur nom et qu'elle ne se laisserait pas influencer. « C'est cela. Si j'ai prié mademoiselle Wurzel de m'accompagner, c'est parce que je sais que tu n'as pas une grande confiance en moi, ce qui est compréhensible. »«
Je n'en aurai pas davantage en mademoiselle Wurzel. »
Se tournant vers celle-ci, Marguerite ajouta
« Je ne vous connais pas, n'est-ce pas, mademoiselle ?»
« Votre mari s'est mal exprimé, » dit Odile avec beaucoup de douceur. « Ou vous l'avez mal compris. Ne croyez pas que je sois venue comme un renfort.
Vous auriez perdu votre temps.
Je suis venue parce que j'ai beaucoup d'affection pour Jean-Noël. J'ai pensé, quand il m'a dit l'autre jour que vous ne teniez pas à divorcer, que dans l'examen de vos situations respectives, vous n'aviez pas pu apporter l'indépendance d'esprit nécessaire.
Vous vous trompez. »
« Laissez-moi finir. Si M. Ettlinger désire recouvrer sa liberté, ce ne peut être à vos yeux que pour refaire à une autre ce qu'il vous a fait, une autre qui n'aura sans doute pas votre patience. Aussi vous êtes-vous dit que, si vous avez la fermeté de résister à votre mari, il vous en sera reconnaissant plus tard et que peut-être même il vous reviendra. Cela eût pu être, évidemment,
s'il n'y avait pas ces éternelles questions d'argent. Mademoiselle Wurzel laissa entendre ensuite ce qu'elle croyait d'une grande habileté, que Jean-Noël n'avait pas pour elle, Odile, ce qu'on appelle une passion, que si tous deux avaient envisagé de se marier, c'était par désir, elle de quitter enfin sa famille, lui d'être soulagé des soucis que lui donnaient et ses charges et le manque d'argent. Une telle humilité n'avait rien de surprenant. Il était indifférent à Odile d'inspirer ce mépris que le monde éprouve pour celui qui vous est reconnaissant de l'avoir frappé, si elle approchait ainsi du but lointain qu'elle s'était fixé. Mais Marguerite était beaucoup plus normale. Elle ne crut pas à cette comédie. Le fait que celle-ci avait pu avoir lieu lui fit mauvaise impression. Au lieu de voir dans les paroles d'Odile un désir de lui plaire, elle y vit cet égoïsme et cette sécheresse qu'on ne rencontrait, selon elle, que dans les milieux riches et soi-disant élégants où elle s'imaginait que son mari évoluait. Elles étaient bien toutes pareilles, ces jeunes filles du monde, dépravées, ne se plaisant que dans des subtilités et aimant à jouer, par perversité, avec des honnêtes femmes. Pourtant, si Marguerite, en dehors des réponses qu'elle faisait partir instinctivement comme autant de cris du cœur, ne manquait pas de déférence, c'était que, dans la solitude et la pauvreté où elle vivait depuis des années, elle avait toujours pensé qu'un jour ou l'autre, ce même monde dont elle disait tant de mal, mais auquel elle était fière d'être mêlée grâce à son mari, aurait besoin d'elle. Ça avait donc été sans le moindre étonnement qu'elle avait reçu Odile, comme si cette visite lui était due, semblable qu'elle était devenue un fonctionnaire intègre qui assiste, impuissant, aux intrigues de ceux qui briguent son poste, mais de qui il faut obtenir qu'il signe une lettre de démission.